Bonsoir à toutes et à tous. Merci au recteur Étienne Grieux pour son accueil. Je suis Christophe Théobald, professeur émérite dans cette maison, et je suis là ce soir aussi au titre du président du comité scientifique qui est responsable de la publication de l'édition critique autorisée des œuvres de Karl Rahner. À mon tour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour notre soirée sur Karl Rahner, un théologien pour aujourd'hui et demain. Soyez toutes et tous les bienvenus. Avant de présenter les participants à cette table ronde, un petit mot sur le déroulement de notre soirée. Sans doute connaissez-vous, au moins sur tel ou tel point, la pensée du jésuite allemand théologien Karl Rahner, qui est né en 1904 à Freiburg im Breisgau et qui est décédé en 1984 à Innsbruck, quelques jours après avoir fêté ses 80 ans. Avec quelques autres, il a joué un très grand rôle au moment du Concile Vatican II. Il est souvent cité de manière critique ou avec approbation quand on parle des chrétiens anonymes. Certains d'entre vous ont peut-être lu des extraits de son célèbre traité fondamental de la foi. Or, comme il arrive souvent, après la mort d'un grand auteur, ses œuvres se dispersent, des simplifications et des caricatures commencent à circuler. Et avec quelques collègues, Monseigneur Joseph Doré et les éditions du CERF, nous avons alors décidé, il y a exactement 10 ans, en 2011, de rendre l'œuvre de Karl Rahner accessible au public francophone, sous l'égide de la Fondation Karl Rahner, qui a achevé en 2018 les 32 volumes de l'édition critique allemande. Je salue d'abord ce soir les représentants de cette fondation, son président, M. Dr. Clemens Martin, et le professeur Harald Schöndorf, directeur des archives de Karl Rahner à Munich, ainsi que notre éditeur, M. Jean-François Colosimo, des éditions du CERF. Vous nous faites l'honneur d'être parmi nous ce soir, chers amis. Soyez remerciés pour votre engagement très précieux en faveur de cette édition francophone. Sans votre aide matérielle et votre ténacité, notre édition n'aurait jamais vu le jour. Notre soirée aura deux parties. Je donnerai d'abord la parole à Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, qui pendant 10 ans a présidé le comité d'honneur de notre édition. Cher Joseph, je n'ai pas besoin de te présenter au public rassemblé ce soir qui te connaît comme défenseur infatigable du service de la théologie au sein de l'Église et de la société. De tout cœur, nous voudrions te remercier ce soir pour ton grand engagement au service de notre édition, pour ton soutien fidèle, tes conseils de théologien et l'aide qui ont permis le démarrage de cette œuvre et son premier développement. Mes remerciements vont ensuite au cardinal Jean-Claude Olrich, qui a accepté de prendre la suite de Mgr Doré comme président de notre édition. Vous êtes toujours jésuite, archevêque du Luxembourg, et président de la COMECE, la Commission des épiscopats de la communauté européenne, et depuis quelques mois, rapporteur du synode sur la synodalité. Je vous remercie beaucoup, chers compagnons, d'avoir accepté la présidence de notre édition critique des œuvres de Karl Rahner, et cela malgré les importantes charges que je viens d'évoquer. Nous nous sommes dit, Jean-Claude, qu'il serait vraiment heureux que Joseph Doré reste lié à notre travail, et nous le demandons ce soir d'être président d'honneur de notre comité. Charge que tout au début de notre œuvre, charge qui tout au début de notre œuvre a été exercée par le cardinal Lehmann, qui a fait beaucoup aussi pour notre édition française. Dans la deuxième partie de notre soirée, le professeur Vincent Holzer, que je présenterai le moment venu, et moi-même vous présenterons d'abord l'un des volumes les plus prometteurs des œuvres de Rahner, qui vient tout juste sortir, et deux des derniers numéros des recherches de sciences religieuses, qui portent sur la théologie de Rahner, représentent un instrument suffisamment ample et nuancé pour aider les étudiants et bien d'autres à entrer progressivement dans la pensée de ce grand théologien et d'en retirer une nourriture, je dirais, solide dans la traversée de nos crises actuelles. Mais je passe d'abord la parole à Mgr Doré pour une quinzaine de minutes. Tu as donné à ton intervention le titre « Éloge de la théologie » en hommage reconnaissant à un de ses maîtres contemporains. Tu as la parole.
Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est très précisément en faisant l'éloge du théologien Karl Rahner, dont l'œuvre nous réunit ici et maintenant, que je ferai l'éloge, annoncé par le programme, de la théologie en général. De la théologie conçue comme une discipline universitaire et ecclésiale, critique et confessante, dont les évolutions présentes de l'Église et de la société font apparaître, je vous le dis comme je le pense, merci de l'avoir souligné, plus que jamais sans doute, non seulement l'importance, je parle de la théologie, mais l'indispensabilité même. Ne disposant que d'un quart d'heure, 20 minutes, ce qui me suffit, j'ai bien conscience que je ne peux envisager qu'une modeste contribution, et j'ai choisi de lui donner la forme, pour gagner le plus de temps possible, d'une succession de quelques brefs flashs. Premier flash, un théologien complet. Un premier trait ne peut, me semble-t-il, que frapper lorsqu'on s'arrête à considérer l'œuvre de Karl Rahner. Son ampleur thématique et une ampleur qu'en tout cas pour son époque, on ne peut que tenir pour tel que son auteur peut être reconnu en effet comme un théologien complet. De ce qui est ou l'objet ou la démarche de la foi chrétienne, Rahner a en effet, en son époque, réellement tout exploré, tout réfléchi, tout théologisé. Commençons par enregistrer que ses œuvres, articles, contributions diverses, ouvrages d'un côté, encyclopédies, dictionnaires, collections de l'autre, commençons par enregistrer que tout cela représente plusieurs milliers de titres. Plus significatif, bien entendu, il faut relever tout de suite l'amplitude du champ théologique couvert par ce théologien infatigable et sa productivité proprement époustouflante. On peut commencer ici par mentionner les grands traités de la dogmatique classique, Dieu et la Trinité, la Christologie et la Sotériologie, le péché originel et la grâce, l'Ecclésiologie et la Sacramentaire, l'Eschatologie et les fins dernières. Mais il n'est pas permis pour autant de passer sous silence les interventions en théologie morale, ni, et moins encore, les propositions en matière de théologie fondamentale, en distinguant du reste entre formale et une fundamentale et théologie et fundamentale théologie. À quoi on doit encore ajouter les prises de position, dont certaines ont été tout à fait décisives, rappelons-nous, Dans le domaine biblique et exégétique, déjà, je pense par exemple à l'article Dieu dans le Nouveau Testament et à l'ouvrage réalisé avec Tuzing, Christologie, Systematisch und Exegetisch. Mais il y a aussi à mentionner le domaine patristique avec des interventions décisives, par exemple toujours Kalkedon, Ende oder Anfang, majeur. Prodigieuse ampleur, vous voyez bien, en vérité, il faut bien en convenir, et c'est la première chose à enregistrer. Faut-il, cela dit, reprocher à Rahner qu'une telle abondance, une telle diversité de sujets abordés, de thèmes traités, l'aurait limité dans l'ordre de la synthèse théologique, en l'empêchant d'écrire une dogmatique systématique comme en ont produit plusieurs de ses collègues protestants surtout? Franchement, je doute qu'il faille lui faire ce procès. Car si déjà je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait en plaçant dès 1954 en tête du tome 1 des Schriften son essai d'une esquisse dogmatique, immédiatement suivi d'une réflexion programmatique zur Frage der Dogmenentwicklung, il est tout à fait fondé lui-même à déclarer que, à propos de ses œuvres, et à déclarer très précisément à propos du traité fondamental de la foi, élaboré alors vers la fin de son chemin, comme vous savez, d'un déclaré, « Si je devais dire ce qu'est ma théologie, il me suffirait de renvoyer à ce livre-là, traité fondamental de la foi, évoqué par Christophe Alenston, on peut y trouver, pour l'essentiel, tout ce que j'ai essayé de dire en théologie. » Moyennant quoi, le reproche de non-publication d'une théologie systématique peut être, me semble-t-il, largement laissé de côté. Moyennant quoi, on ne peut ici, me semble-t-il, qu'acquiescer à ce propos de son disciple Jean-Baptiste Metz, dans la prédication donnée par lui en la fête de Saint-Ignace de 1982 pour les 50 ans de sacerdoce de Karl Rahner, je cite Metz, que je salue alors qu'il vient de nous quitter récemment, Karl Rahner a dessiné l'arrière-plan théologique à partir duquel nous tous, oui, je crois que je peux dire nous tous, nous pratiquons la théologie aujourd'hui. Premier flash, un théologien complet. Deuxième flash, un théologien toujours à l'écoute. J'ai hésité assez longtemps sur le qualificatif à adopter pour ce deuxième flash. Fallait-il dire un théologien toujours disponible, engagé, responsable, en dialogue, en éveil. Je me suis rallié à un théologien toujours à l'écoute, en pensant évidemment à Hörer des Wortes, sur lequel je vais revenir. Théologien toujours à l'écoute, pour désigner alors non plus l'amplitude unique du champ théologique, thématique, dans lequel il a déployé sa théologie, mais pour désigner cette fois l'attitude dans laquelle il a déployé sa réflexion, attitude d'ouverture, d'accueil, de disponibilité, qui l'a en fait ouvert à une exploration aussi ample et qui lui a permis de déployer toute cette littérature que j'ai enregistrée en un premier temps. Mais cette attitude correspond à une épistémologie et même à une éthique intellectuelle dont nous avons toujours à nous inspirer aujourd'hui. Au fond, Karl Rahner n'a qu'assez rarement défini lui-même les thèmes de sa réflexion théologique si abondante. Et je pense qu'il faut soigneusement se garder de ne voir là qu'une donnée simplement factuelle d'un homme qui était tout prêt à répondre, même pour les meilleurs motifs, aux demandes qui lui étaient adressées. Pas du tout. Je crois qu'il faut y voir, ni plus ni moins, un choix méthodologique sur la fonction de la théologie dans l'Église et dans la société. Un choix méthodologique. Accueillir ce qui se présente autour de lui dans l'ordre humain comme une mise en demeure à l'écoute de laquelle il faut se mettre, pour ensuite s'efforcer de la traiter avec honnêteté et rigueur selon la foi des chrétiens. Ainsi, Karl Rahner a-t-il accueilli et traité, commençons par là, les dévotions de la piété des fidèles, le Sacré-Cœur, les dévotions mariales, les vérités oubliées sur le sacrement de pénitence, les indulgences même, et même les révélations privées. Mais, à côté donc des questions de la piété des fidèles, il a aussi abordé, traité les questions de la pastorale de l'Église. Il est ici à l'écoute des prêtres et des différents agents de la vie ecclésiale. Il dialogue avec des jeunes, avec des malades, avec des prisonniers. Il réfléchit avec eux et pour eux, et avec eux. Il compose des prières pour être dans la vérité ou bien pour en appeler au Dieu du silence. Et il théorise tout cela en deux volumes importants consacrés au rapport entre Sendung und Gnade, entre mission et grâce. Mais Rahner, au-delà, disons, de la piété de la pastorale, ce qui n'est déjà pas rien, il n'a pas dit « ça, c'est pas pour moi, je suis un théologien ». Comme théologien, il se laisse interpeller aussi par cela. Il a aussi dialogué, eu le souci de dialoguer avec la science, ou plutôt avec les sciences de son temps, spécialement celles dites de la nature. Ses réflexions sur évolution et création, par exemple. Sciences de la nature, mais aussi sciences de l'homme, au sens où sont concernées la biologie et la médecine, entre autres. Certes, il a moins dialogué, l'époque le voulait, avec ce que nous appelons, nous, les sciences humaines et les sciences sociales. Mais la science, les sciences, l'approche scientifique du réel et de l'existence humaine, ça, si j'ose dire, vous me le permettrez, il se l'est tapé aussi. Et il a lui-même regretté, d'ailleurs, dans une conférence sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, qu'il avait donnée ici, à l'occasion de la sortie de la traduction du traité fondamental de la foi, le 11 avril 1983, dans une conférence qu'il a tenue à cette occasion intitulée « De la patience intellectuelle envers soi-même », il a dit son regret d'être obligé de patienter avec lui-même parce que, domaine des sciences sociales et des sciences humaines, il n'était pas très au courant. Voilà. Je saisis l'occasion de saluer Bernard Sesbouy, on l'a rappelé tout à l'heure, à l'occasion de cette évocation que je fais de la grande soirée de présentation du traité fondamental de la foi en français. Plus largement et plus profondément encore que ce que je viens de dire, plus profondément encore qu'avec les sciences humaines, Rahner dialogue et débat, je dirais, avec la culture de son temps, tout spécialement en sa dimension philosophique. Dès 1940, les recherches de sciences religieuses, que je salue aussi, publient en traduction française son introduction au concept de philosophie existentielle chez Heidegger. Heidegger, dont, en son temps de formation, il était venu suivre un temps les cours à Freiburg in Breisgau. Ici, à propos de la philosophie et de l'importance que Rahner lui accorde toujours, il sera très éclairant, je pense, de se souvenir que, à Freiburg toujours, justement, Rahner a mis en chantier, sous la direction non pas de Heidegger, mais du professeur Honecker, une thèse de philosophie consacrée, s'il vous plaît, à saint Thomas d'Aquin. Mais à un Thomas approché, interrogé, en fonction d'interrogations de et sur l'esprit humain, très précisément considéré, Christophe, comme « esprit dans le monde, Geist in Welt ». Il sera plus éclairant encore à propos du rapport de Rahner à la philosophie et à ce que représente ce rapport, plus éclairant encore de rappeler que, ayant été soumis à des censeurs, ce travail de Rahner, de philosophie, ne fut pas accepté comme thèse de philosophie scolastique. et il sera définitivement éclairant d'apprendre ceci de Rahner lui-même dès les premières pages de l'ouvrage en son édition de 1939. Je cite Rahner, première page de Geistinwelt. On dira peut-être, mais vous donnez de ce saint Thomas une interprétation puisée dans la philosophie moderne. Loin de considérer une telle appréciation comme une critique, l'auteur l'accepte comme une louange. Car enfin, je vous le demande, saint Thomas peut-il m'intéresser, autrement qu'en fonction des questions qui s'agitent dans mon esprit et qu'agite la philosophie d'aujourd'hui? Il faut cependant aller bien plus loin, bien plus profond encore, pour faire justice à Rahner comme théologien. Il est un théologien complet, et cela en étant toujours de fait un théologien à l'écoute, mais par là précisément, il est ce que je dirais un véritable théologien. Véritablement théologien, du coup, flash 3, un théologien véritable. Il faut quand même le dire, le souligner, Rahner est d'abord et avant tout théologien, que voulez-vous ? Parce qu'en tout et toujours, il traite de Dieu. Et que, quel que soit l'objet thématique précis dont il s'occupe au moment, il ne perd jamais de vue qu'il n'a à en traiter précisément, als théologue, à en traiter que au titre de ce que Dieu peut en éclairer, que, je dirais, sub ratione Dei. Pour illustrer ce point capital, je ne saurais sans doute mieux faire ici que de citer Jean-Baptiste Metz dans l'homélie déjà citée que j'ai traduite et demandé à l'éditeur de faire figurer immédiatement après ma présentation de l'ouvrage paru au CERF sous le titre « Karl Rahner, le courage du théologien ». Je lis Jean-Baptiste Metz. C'est splendide, vous verrez. Je me rappelle encore fort bien mes premières impressions dans les cours et les séminaires. En ces lieux-là, quelqu'un parlait de Dieu et de la grâce, du salut et des sacrements, non pas tant dans une langue qui serait restée seulement celle de l'enseignement et de l'argumentation, d'une dogmatique subtile, mais dans la langue prudente et cependant très précise qui à la fois renvoyait et introduisait à l'expérience de la foi. Et ici, ce n'était pas seulement une foi préconçue qui était enseignée et professée. La foi était éveillée dans un mouvement, c'est admirable quoi, dans un mouvement de renvoi à la vie elle-même. Moi-même, dit Metz, moi-même, avec mes propres expériences contradictoires, je pouvais soudain m'y retrouver. Je pouvais me retrouver dans ce discours sur la grâce et sur cette mort qui s'étire tout au long de la vie lorsqu'elle se barricade contre la grâce. Le discours sur Dieu entrait dans le détail du concept et revenait du concept vers la vie et ses contradictions. Jamais je n'ai éprouvé Karl Rahner seulement comme un grand érudit, on l'a dit, hein, comme une sorte de maître à penser théologique, ce pourquoi beaucoup le tiennent, mais qui lui serait à lui-même abomination, je pense que Metz pousse un peu. Pour moi et pour beaucoup, il était et il est un théologien, théo, trait d'union, logien, qui a l'expérience de Dieu et qui le cherche. Autrefois, on parlait, en l'occurrence, d'un théologien mystique, mais à ses côtés, nous avons peu à peu compris que cette désignation est à vrai dire pléonastique. Il en va en somme, dit Metz, je terminerai là-dessus cette citation, il en va en somme comme si l'on parlait d'un bois en bois, also ein hölzernes Holz. Un bois boisu, comme on dit quelque part, dans la région de Nantes. Encore faut-il ajouter que ce mystère de Dieu, non seulement Rahner veut le respecter comme tel, mais il veut aussi dans le même temps respecter totalement le mystère de l'homme auquel, selon la foi chrétienne du moins, ce Dieu-là a résolu de s'adresser, de se révéler, de se communiquer, de s'auto-communiquer. D'où le constant souci du théologien Rahner de ne parler toujours du mystère de Dieu à l'homme d'aujourd'hui qu'à partir du mystère, même du mystère même que tout homme est et reste toujours à lui-même. D'où, chez Rahner, le constant souci de ne parler de Dieu et des choses de Dieu qu'à un interlocuteur toujours pris en compte, respecté, traité, interpellé, dans sa condition humaine comme telle. Autrement dit, après avoir établi le fait que la foi chrétienne s'adresse à un partenaire qui est un Geist in Welt, Rahner estime que ce partenaire peut et doit toujours, si possible, être acheminé à se reconnaître comme étant précisément en ce monde, Geist in Welt, à l'écoute de la parole que la foi chrétienne dit lui avoir été annoncée dans son histoire même, là où il est, là où il vit, là où il s'interroge, là où il mourra. Et c'est pourquoi, dès 1941, après la thèse Geist in Welt, il écrit, il met en œuvre Hörer des Wortes, édité d'ailleurs par Metz, dans une il explique qu'il va parler du mystère de Dieu en prenant en compte le mystère de l'homme dans une anthropologie métaphysique qui montrera que c'est déjà de par son essence même que l'homme fonde son existence spirituelle sur des événements historiques et s'interroge sur eux. Je trouve ça puissant. C'est en effet seulement si, ayant dûment établi cela, que Rahner estime qu'on pourra faire apparaître toute la pertinence intellectuelle et tout l'intérêt humain d'une foi qui professe que Dieu se révèle et vient à la rencontre des hommes là où précisément ils sont hommes et ont à le devenir toujours plus et mieux, à savoir dans leur histoire. Sans doute peut-on dire que là sont le projet, l'exemplarité, la fécondité, la théologie de Rahner, théologien véritable. Bon, tout ça étant dit, plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr, à commencer par Christophe, sont en train de se dire, en ce moment même, notre conférencier, que je suis, a annoncé 5 flashs. Et il vient tout juste de s'acquitter du 3e. Combien de temps? Ça va durer? Comment lui sera-t-il possible de respecter son timing? Eh bien, rassurez-vous. Il me semble que, compte tenu de ce qui a déjà été dit, il suffira, concrètement, pour les 2 flashs qu'il me reste à vous présenter, de désigner d'une forme une analogue à celle qui a adoptée pour les 3 précédents, qui sera courte évidemment, le flash dont il s'agit, et puis de l'assortir d'un bref commentaire, d'une brève illustration. Alors j'en suis à 4, flash 4, un théologien, théologien chrétien. Tout ce que Rahner dit de Dieu est pour l'homme qui veut bien l'écouter, alors qu'il s'est préalablement lui-même mis en devoir d'écouter son interlocuteur, tout cela a son origine et sa teneur même en Jésus, reconnu comme le Christ de Dieu. Si Dieu est mystère, et même le mystère absolu, certaines expériences humaines fondamentales, en tant qu'elles rendent l'homme attentif à son propre mystère, pointent et orientent l'homme vers Dieu. La profession d'espérance qui meut l'agir et naît de l'agir. L'angoisse fondamentale devant une existence toujours inéluctablement vécue sous le signe de la mortalité et de la mort. L'expérience d'une certaine joie et de sa gratuité. Et par-dessus tout, bien sûr, le service et la disponibilité de l'amour, tel que l'Évangile invite à le pratiquer. De ce mystère, Jésus-Christ représente au cœur de l'histoire et en figure humaine la révélation, l'avènement et, pour tout dire, l'autocommunication. Il revient à l'Église d'en porter incessamment l'annonce et d'en célébrer toujours ici aujourd'hui la grâce. Au terme incertain de notre existence personnelle à tous et de l'histoire totale du monde, à travers toutes les incontournables épreuves de la temporalité et le tragique universel de la mort, ce mystère nous attend pour nous accueillir grâce à la vie et à la Pâque de Jésus, pour nous accueillir comme notre avenir absolu, tout aussi gratifiant qu'insondable. On peut retrouver dans tout cela, dans Aimer Jésus, petit ouvrage rassemblant trois textes de Rahner, recueillis, traduits et présentés par moi avec l'accueil et l'accord express de Rahner ici même, lorsqu'il est venu nous faire sa conférence à l'occasion de la sortie de la version française du Traité de la Grâce, et que j'ai été heureux et honoré de publier comme numéro 24 de la collection Jésus et Jésus-Christ, texte rassemblé donc par moi et publié dans la collection, mais revu, présenté et relu 28 années plus tard, en 1982, par Christophe Théobald. Reste, après donc le 4 qui était un théologien, qu'est-ce que j'ai dit ? Un théologien chrétien, eh bien, un théologien, mesdames et messieurs, catholique. Il suffira de quelques phrases, et je vais me tenir dans les temps, de quelques phrases pour illustrer ce dernier énoncé. Théologien, Karl Rahner a toujours eu la vive conscience de devoir à une histoire, à une tradition, à l'Église. La foi dont il appréciait pour lui-même la lumière et dont il cherchait à exprimer pour le plus grand nombre possible l'intelligibilité. Il me semble qu'on ne peut qu'être frappé par l'importance qu'il a toujours accordé, je suis dans l'Église, je suis dans l'histoire qu'il avait conscience d'avoir vécu. L'importance qu'il a toujours accordée à Ignace de Loyola, aux exercices spirituels, à l'ordre des Jésuites. Église. Certes, il lui est arrivé de critiquer, au sens théologique, et certains comportements et certains enseignements de l'Église. Mais sa critique, c'est toujours au sein même de l'Église, du sein même de l'Église, qu'il la formule. Dans le cadre des déclarations faites par le cardinal Koenig à la mort de Rahner, qui l'avait accompagné comme expert au Concile Vatican II, c'est-à-dire l'importance de sa présence, je relève cette déclaration, donc elle est du cardinal Koenig de Vienne, cette déclaration de Karl Rahner. Je suis un catholique, prêtre et jésuite normal, pour lequel son appartenance à l'Église catholique est une composante essentielle de sa relation avec Dieu lui-même, dans la foi, l'amour et l'espérance. La question stupide sur la raison pour laquelle je reste encore dans l'Église, excusez-moi, c'est Rahner cité par le cardinal Koenig, cette question-là me retourne l'estomac. Alors, j'en suis évidemment à mon terme. Inutile de développer. On pourrait évidemment tout à fait en rester là. Je ne vais pas prolonger longtemps. Je ne renonce pourtant pas à l'envie théologique aussi, rassurez-vous, de terminer mon propos sur Rahner, sa théologie et ce qu'il nous enseigne par les mots sur lesquels Jean-Baptiste Metz terminait la splendide homélie que j'ai déjà citée. Il s'agit d'un merci que voici. J'espère que je vais le retrouver quand même. Non, c'est pas là. Aussi bien souhaiterais-je, en cette heure, vous inviter tous au merci. Le merci au jubilaire de cette heure, Rahner, est en fin de compte un merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce Karl Rahner, parce que Dieu nous a fait le cadeau d'un homme comme lui, d'un homme trait d'union chrétien, dans ce temps de notre monde où pourtant l'absence de mystère est tellement ressentie et proclamée. Merci à Dieu pour l'ordre d'Ignace qui a imprégné Karl Rahner jusque dans ses racines. Merci à Dieu pour la communauté chrétienne dans laquelle nous fêtons ce jour. Et finalement, merci à Dieu pour Dieu. Merci à vous.
Merci beaucoup, Joseph, pour ces 5 flashs. Un théologien complet, toujours à l'écoute. Un véritable théologien. Un théologien chrétien. Et un théologien catholique. Voilà, je pense que tu nous as donné une magnifique introduction, je dirais aussi pour les auditeurs, pour s'intéresser à cette œuvre, je dirais, qui est d'une très très grande ampleur. Évidemment, tu as commencé par cela, mais que finalement se réduit à quelque chose d'extrêmement simple. Et je crois que tu nous as bien aidé à comprendre ça. Merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite maintenant passer la parole à Monsieur le cardinal Jean-Claude Olrich. Donc, vous avez pris la suite de Joseph Doré pour la présidence. Un grand merci.
Voilà, merci d'avoir pensé à moi, mais je me sens tout petit de prendre cette succession, parce que je ne saurais vous donner un exposé comme Mgr Doré l'a fait. Je ne suis pas théologien. J'étudiais la théologie comme tous les jésuites, mais ensuite j'ai étudié les sciences du langage à Munich et un peu changé de direction après en enseignant les études européennes à l'université Sophia de Tokyo. Donc, comment puis-je parler de Rahner? J'ai accepté parce que j'ai connu Karl Rahner. J'étais séminariste au Collège Germanique à Rome. Et un bon matin, j'étais là pour prendre mon petit déjeuner, j'étais seul, la porte s'ouvre et voilà Karl Rahner qui entre. Et il se met à ma table. Alors naturellement, je l'ai reconnu et j'étais très nerveux. Que parler avec un tel théologien? Mais j'ai vraiment fait l'expérience de ce que Mgr Doré a dit, c'était un homme toujours à l'écoute. C'était un homme d'une grande humilité, parce qu'il a cherché le dialogue avec moi à l'époque. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a lu ses premiers livres de théologie, ce qu'il raconte. Ce n'était pas très profond ce que je disais. Et ça manquait complètement d'originalité. Mais Karl Rahner m'a écouté. Et je suis resté en contact avec lui. J'ai quitté Rome pour entrer au noviciat jésuite en Belgique. Et nous nous sommes écrits. Il m'a conseillé mes lectures au noviciat. Et je devais lui écrire des lettres pour rapporter comment j'avais interprété ce qu'il me donnait à lire. Je dois remercier mon maître des novices qui m'a permis de faire cela. j'avais la permission spéciale d'utiliser la bibliothèque des pères, ce qui n'était pas normal à l'époque. Et j'étais au début déçu de ce que Ranor me donnait à lire, parce qu'il me demandait de lire les grandes théologies dogmatiques néo-thomistes, en latin. Je trouvais ça très aride, je dois vous l'avouer, mais il m'a fait comprendre qu'il y avait deux raisons à lire cela. La première, c'est qu'il faut savoir ce que les générations avant nous ont pensé. Et la deuxième, c'est, mais justement, comme jeune novice, avec les questions qu'il ne comprend pas, voilà, il faut poser ces questions au texte. Il m'a aussi, et vous l'avez mentionné aussi, orienté vers ce qu'il avait écrit sur le Sacré-Cœur. Donc il y avait aussi un élément très spirituel. Hélas, quand après mon noviciat, j'étais à Luxembourg pour ma régence, après avoir reçu pour mes vœux la traduction française du Grundkurs des Glaubens, le traité fondamental de la foi, pour mes vœux, à son confrère Jean-Claude, j'avais les larmes aux yeux parce qu'il y avait quand même une différence assez grande entre nous. Il est mort pendant cette régence à Luxembourg. J'ai beaucoup lu après tout ce qu'il avait écrit. Et je l'ai admiré, et je l'admire encore maintenant comme évêque et cardinal, parce qu'il y a théologie et théologie. Il y a des théologies belles comme des cathédrales, qu'on aime regarder, mais quand on entre dans ces cathédrales, après un certain temps, on ne s'y sent plus à l'aise. Ce n'est pas quelque chose à ma dimension, d'un homme maintenant du XXIe siècle. Et il y a des théologies comme celle de Ranor qui sont ouvertes. Et il y a toujours dans l'Église, et en France on le voit bien, les tentations de systèmes fermés. Mais l'avenir de l'Église, c'est toujours dans les systèmes ouverts. Aussi dans les systèmes ouverts de théologie. Et comme maintenant je dois m'occuper du prochain synode comme rapporteur général, j'ai trouvé dans les œuvres de Ranner un écrit presque prophétique. C'est dans Changement structurel de l'Église comme devoir et chance. Le berger doit rester le berger. Mais il ne doit pas pour autant traiter ses brebis comme des brebis. Mais si cela ne doit pas être le cas, alors il doit y avoir, de manière graduée et différenciée selon sujet en question, tout au moins dans de nombreux cas, un droit des prêtres et des laïcs à participer aux décisions de l'Église de manière délibérative et non simplement consultative. Une telle aspiration ne doit pas être vue d'emblée principalement comme une sorte de démocratisation suspecte de l'Église qui serait en contradiction avec la nature de l'Église. Et nous voilà en plein processus synodal. Parce que vous savez que, contrairement au synode, sur l'Amazonie et sur les jeunes, mais il y avait des consultations auparavant. Maintenant, il n'y a pas de consultations, mais des délibérations dans chaque diocèse. Et le synode a déjà commencé. Il ne commence pas en 23 avec le synode des évêques. C'est donc quelque chose de nouveau dans l'Église, mais qui n'est pas tout à fait nouveau quand nous considérons les textes de Vatican II. Vous savez que le pape François voit sa tâche comme réaliser le Concile Vatican II. Et il y a des points qui ont été tout de suite repris, tout ce que le Concile a dit sur les évêques. Ben, nous sommes peut-être, c'est peut-être pas un hasard que les évêques se soient surtout penchés sur ces questions-là. Et la position de l'évêque est devenue très forte. Peu de choses ont été développées sur le sacerdoce de tous les baptisés. Et là, il y a des choses à construire dans l'avenir, dans une théologie non fermée. Et l'Église, l'image de l'Église comme peuple de Dieu en marche, inclut l'évêque dans ce peuple de Dieu. On le voit bien dans le logo du synode, où l'évêque marche au milieu du peuple. Voilà donc, je pense, que Ranach a été un des principaux architectes d'une théologie qui permet ce développement dans l'Église qui vient tout juste commencer. Je pense aussi que un des grands défis de la théologie dans l'avenir, c'est ce que j'appellerais la mondialisation des religions, la globalisation des religions et des cultures. Auparavant, chaque religion existait dans sa culture dominante. Alors c'est clair, alors les théologies deviennent des cathédrales qui sont belles, qu'on admire, qui ont quelque chose d'identitaire aussi. Mais notre monde n'est plus pareil. Si je peux être catholique fondamentaliste, musulman fondamentaliste, hindou fondamentaliste, juif fondamentaliste, et nous aurons alors un monde en conflit. Donc, la globalisation générale ne peut que fonctionner s'il y a une mondialisation des religions. Ça ne veut pas dire que je cesse d'être catholique, que je ne crois plus en Jésus comme mon sauveur. Mais je dois avoir un système qui s'accorde avec d'autres systèmes. Et le même devoir est pour les théologies juives, musulmanes, etc. Et je me demande si la théologie du chrétien anonyme n'est pas une ouverture chrétienne dans ce sens. C'est encore une théologie à construire. Nous avons Fratelli Tutti du pape François, qui nous donne la direction. Et il nous faut des théologies ouvertes aujourd'hui qui permettent aux évêques de bien faire leur devoir d'évêque. Nous avons besoin de théologies fortes de notre temps, et je pense que Karl Ranach est un exemple, est un modèle de cette manière d'être théologien. Voilà tout ce que je voulais vous communiquer. Merci.
Un très grand merci, Jean-Claude Ulrich, pour à la fois ce témoignage personnel et cette ouverture, notamment vis-à-vis de la synodalité. Et je pense que ce que j'entends surtout ce soir, qu'il faut très rapidement faire traduire dans les œuvres complètes ce texte Strukturwandel in der Kirche. C'est un très grand texte que Ranach a fait au moment du synode des diocèses d'Allemagne, et donc dans les années 74-76. Et on trouve beaucoup de questions, voilà, qui sont au fond sur la table aujourd'hui et pour nous. Et donc ça pourrait être une aide, il faudra y réfléchir dans le comité scientifique si on ne peut pas avancer un peu ce volume où se trouve, je dirais, ce petit opuscule qui n'est pas très long, de 140 pages, quelque chose comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je saisis aussi l'occasion, après votre parole, de saluer le professeur Jean Héret, président de la Luxembourg School of Religion and Society, avec qui le Centre Sèvres a signé cet après-midi une convention et avec qui nous organisons ensemble un séminaire sur l'épistémologie philosophique et théologique de Karl Rahner. Justement, il sera question de cette théologie ouverte qu'il faut peut-être refaire, je dirais, aujourd'hui. Sans attendre, je donne maintenant la parole au professeur Vincent Holzer. Vincent, tu es professeur à l'Institut catholique de Paris, où tu diriges maintenant le département de la recherche. Tu enseignes la théologie fondamentale et dogmatique, et tu es grand spécialiste de la pensée de Karl Rahner et de Hans Urs von Balthasar. Il faut nommer les deux quand on te rencontre et quand on te présente. Tu es membre de notre comité scientifique depuis le début de son existence. Et je voudrais en même temps saluer très amicalement l'ensemble des 10 membres de notre comité scientifique. Malheureusement, Agnès Kleiss, qui est notre secrétaire, qui fait un travail énorme, ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'elle est tombée malade cette semaine. Voilà. Et je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre travail. Et vous voyez, il y a les volumes existants qui sont déjà exposés ici. Donc sur 32 volumes, il y en a 8. 9 même, le 9e vient de sortir, donc ça veut dire que nous pouvons être assez fiers parce que l'édition avec 9 volumes, elle existe déjà. Alors maintenant, il faudra évidemment la mener jusqu'au bout. Alors pour revenir à toi Vincent, j'ai profité pendant de longues années de ton expertise fraternelle et compétente dans le comité de rédaction des recherches de sciences religieuses, où nous avons travaillé ensemble pour concevoir le projet du colloque Rahner, dont je parlerai après toi. Tu vas donc nous présenter le dernier volume sorti il y a quelques jours, et tu as la parole.
Je te remercie beaucoup, Christophe, pour cette invitation. Je ne vais pas faire un exposé très détaillé sur le contenu du volume. Je voudrais d'abord vous exhorter à l'acheter. Je vais d'ailleurs vous dire pourquoi je vais vous faire part d'un sentiment un peu épidermique, je le reconnais, mais vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. D'abord, je voudrais faire mémoire du père Bernard Cesboué, car c'est à son contact que j'ai pu m'adonner moi-même à des exégèses assez détaillées des textes de Karl Rahner. Je fus dans cette illustre faculté l'auditeur heureux et le participant assidu d'un séminaire d'exégèse consacré au Grundkurs des Glaubens, animé par le père Bernard Cesboué. À propos de mon premier contact avec Karl Rahner, je dois confesser ceci. Je suis entré au grand séminaire de Nancy, mon baccalauréat acquis, à l'âge de 18 ans. Puis l'un de mes professeurs, revenant de Paris, avait emporté avec lui un ouvrage qu'il disait tout à fait fondamental. Il s'agissait précisément du traité fondamental de la foi. Je n'avais évidemment jamais rencontré Karl Rahner, je n'avais jamais lu la moindre page de ce théologien, et je me suis mis à lire au grand séminaire de Nancy, en première année de séminaire, le traité fondamental de la foi. J'ai conservé toutes les annotations, évidemment, et les points d'interrogation, très nombreux, qui figurent dans cette édition que j'ai eu la joie d'acquérir rapidement. Alors, la petite notation personnelle à laquelle je vais faire allusion maintenant est la suivante. Nous le savons, le sort où la destinée de la théologie dépend de beaucoup de facteurs. Et parmi ceux-ci, il faut compter bien sûr les moyens de diffusion du livre théologique. Dès lors qu'il représente non seulement un intérêt, mais un événement pour la pensée. Il faut d'autant plus veiller à la diffusion et à la reconnaissance de cette littérature qu'elle se présente la plupart du temps sous un aspect confiné, discret, presque invisible. Arpentant très récemment les allées d'une vaste librairie qui me semblait consacrée à cette tâche. C'est avec dépit et un peu de tristesse que j'ai pu constater, et cela ne date pas d'aujourd'hui, que ces événements éditoriaux ne sont guère identifiés et encore moins valorisés. J'évoque ces facteurs presque prosaïques ou considérés comme tels, bien qu'ils ne le soient pas sur le fond. Fort heureusement, par le concours de nos forces conjuguées, nous nous efforçons de lutter contre l'enclavement et l'invisibilité relative des productions ou des grandes productions théologiques, dans un environnement culturel où la masse des productions appelle apparemment des discernements qui relèvent de stratégies de vente que je comprends et dont je comprends parfaitement la nécessité. Mais plus on confine, plus on cache, moins l'on se donne de chances de parvenir à des résultats inattendus, c'est-à-dire l'augmentation, la croissance de ces ventes. Je suis persuadé qu'il faudrait peu de choses pour y parvenir. Une manière de présenter, et non pas une manière d'empiler sur des travées inaccessibles. Je ne veux pas me proposer comme chef de rayon, mais cela ne me déplairait pas. Vous l'avez constaté, je suis prêtre et je ne vais pas me défaire de cet état pour être chef de rayon, mais encore que cela ne me déplairait pas. J'essaie aujourd'hui modestement de trouver de nouveaux moyens d'identification et de diffusion d'une revue dont j'ai aujourd'hui la charge, et nous ne tarderons pas d'ailleurs à les mettre en œuvre, sans doute pour des résultats initialement décevants, mais peut-être aussi, je l'espère, prometteurs. Mais il y a les travaux minutieux de l'édition critique autorisée. Des œuvres de Karl Rahner, une initiative née de l'intuition forte, généreuse et prometteuse de Christoph Theobald. Et c'est évidemment, de mon point de vue, un événement tout à fait considérable. Nous pouvons aujourd'hui à nouveau avoir accès à des textes souvent introuvables et dont les éditions sont anciennes, vous le savez bien, et grâce à ce projet qui paraît titanesque, car je vous assure que quand on travaille à la confection d'un volume comme celui-là, alors moi je n'ai pas les qualités d'un éditeur, Monseigneur Doré qui est ici, a évidemment une expérience que nul ne peut revendiquer, mais je vous avoue qu'on en sort un petit peu lessivé. Et il y a un deuxième volume de plus de 500 pages qui paraîtra sans doute prochainement sur des questions trinitaires et que j'ai également la joie de diriger. Alors, somme toute, dans la période contemporaine, il y a assez peu de théologiens qui ont produit une conceptualité théologique originale, sans cesse remise sur le métier. Mise à l'épreuve des questions à traiter, souvent inédites, impromptues ou urgentes. Monseigneur Doré en a fait la liste. Et qui, par le fait même, cette conceptualité théologique originale, évolue et se transforme, s'affine et s'amende au gré des questions traitées. Et je trouve que cette mise à l'épreuve d'une conceptualité théologique originale, souple, plastique, donne à la pensée de Karl Rahner une fécondité dont aujourd'hui nous profitons. Je dois avouer que la fascination, et le mot n'est pas trop fort, on pourrait penser le contraire, lors de ma soutenance de thèse à l'Université grégorienne de Rome, l'un des membres du jury, qui n'était autre que le père Bernard Sesboué, me dit « Mais enfin, où penche votre cœur ? Du côté de Hans Urs von Balthasar ou de Karl Rahner ?» Je lui ai dit « J'aime les deux, Mais enfin, déterminez-vous. Oui, j'aime les deux. J'aime les belles cathédrales, hein, je suis messin. Alors donc, je dois avouer, je reviens à mon texte, je dois avouer que la fascination que j'éprouve pour Karl Rahner repose en grande partie sur sa créativité conceptuelle. Elle répond à ce que Gilles Deleuze exigeait du concept. Je le cite, il ne s'agit pas de Karl Rahner, mais de Gilles Deleuze. La grandeur d'une philosophie, oserais-je ajouter, et je vais ajouter, en parodiant Gilles Deleuze, la grandeur d'une théologie s'évalue à la nature des événements auxquels ces concepts nous appellent, ou qu'elle nous rend capable de dégager dans des concepts. Si bien que, je cite encore Gilles Deleuze, le concept dit l'événement, non l'essence de la chose. Je crois que tout Karl Rahner est contenu dans cette affirmation deleuzienne. Le concept dit l'événement. C'est pourquoi la conceptualité de Karl Rahner s'ajuste à l'événement. Et d'ailleurs, un exégète attentif au texte rahnérien, dans son déroulement diachronique, est capable de repérer les métamorphoses dont Karl Rahner lui-même s'est fait l'artisan. Des métamorphoses qui lui ont permis très souvent ou d'abandonner, ou d'amender, ou d'affiner sa propre conceptualité théologique. Le concept dit l'événement, non l'essence de la chose. C'est en cela que, de mon point de vue, Karl Rahner n'est pas néo-thomiste. Cette définition s'applique donc à merveille. Elle s'ajuste précisément à l'entreprise rahnérienne. Et le volume tout entier, 22.1a, attention, il y a un 22.1b, mais le volume tout entier, 22.1a, ce volume tout entier rassemble des textes écrits sur une décennie, de 1964 à 1974, il s'agit donc d'un segment de temps relativement réduit, et il confirme, ce segment et ces textes confirment cet ajustement que je m'autorise à déterminer en recourant à l'énoncé deleuzien. Mais aucune définition, aucun apparentement facile ne saurait enfermer la pensée de Karl Rahner dans des schèmes préconçus. C'est la raison pour laquelle il faut éviter, lorsque l'on veut se familiariser avec la pensée de Karl Rahner, il faut éviter de recourir à des définitions hâtives, transcendantales, catégoriales, etc. Il faut que cet appareillage conceptuel soit mis à l'épreuve des textes. Car Rahner, c'est une langue. C'est une langue. Alors, je garde ici en mémoire l'avertissement maintes fois répété par Karl Rahner, et en particulier dans le volume que nous venons d'éditer. Je le cite dans ses leçons données à Montréal entre le 18 et le 22 août 1969. Voici ce qu'il écrit. Cela me plaît. Cela plaît à tout théologien, bien entendu. « Je voudrais encore exprimer ma méfiance décidée et fondamentale vis-à-vis de tout essai de réduire adéquatement la théologie à sa méthodologie et de l'y transposer. Une théologie est toujours plus que son herméneutique. » Fin de citation. On se demande pourquoi Hans-Urs von Balthasar a battu le fer avec Karl Rahner. Évidemment, leur conception du rapport de l'homme à Dieu était très différente. Et, par le fait même, leur conception du rapport de Dieu à l'homme. Mais là, Balthasar en savait peut-être un peu trop. alors que Karl Rahner en savait un peu moins et voulait moins en savoir. Alors il va de soi que la circularité que présuppose et inclut cette affirmation s'impose à chaque étape du travail. Et c'est ainsi que la théologie peut prétendre à un authentique statut scientifique ou réflexif. Car la théologie ne se confond pas totalement avec son objet. Et cette distanciation que Karl Rahner a beaucoup travaillée, le volume en témoigne. Le volume en témoigne parce qu'il est essentiellement consacré à des textes méthodologiques sur le rapport entre philosophie et théologie. C'est pas... Je dois déjà m'arrêter. Bon. Mais je vais donc aller un peu plus vite, j'ai compris. J'ai bientôt fini. Dans le rapport éditorial, très instructif et précieux, on apprend que la conception et la composition des textes que rassemble le présent volume sont contemporains d'une intense activité d'expertise et d'enseignement. C'est d'autant plus important à recueillir. Pendant le Concile, vous le savez, Rahner accepte l'appel de l'université de Munich pour être le successeur de Romano Guardini dans la fameuse chaire qui naquit en 1923 à Berlin sous le nom de Katholische Religionsphilosophie und Weltanschauung, transférée à Munich en 1948. En 1966, Rahner quitte Munich et se rend à Münster, déçu de ne pouvoir promouvoir des doctorats en théologie systématique parce que cette chaire était rattachée à la faculté de philosophie. Alors cette période de 1964 à 1974 que recouvre notre ouvrage se caractérise par une intense activité de publication dans le domaine de la théologie systématique, avec des contributions de premier ordre en théologie trinitaire et en christologie, correspondant cette fois au volume 22.1b, apparaître bientôt. Si bien que deux volumes, le volume présent, puis le volume apparaître, apparaissent presque comme un diptyque, non intentionnel, mais un diptyque tout de même. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je vais terminer. Le volume 22.1a, qui fait choix d'une répartition thématique, aborde des questions qui relèvent des fondements de la dogmatique et de la théologie fondamentale, avec un copieux ensemble qui occupe le centre du volume, consacré quant à lui à l'articulation entre philosophie et théologie, puis à l'historicité des processus de transmission. Ce qui est, à mon avis, un vrai sommet dans cet ouvrage. Il est intéressant de constater que, chez Karl Rahner, l'historicité de la théologie ne relève pas des principes d'une herméneutique générale, mais de l'événement de révélation lui-même, impliquant le pôle de l'analysis fidei. Et le volume est polarisé sur ces questions. La vie de l'Église en acte, telle est, d'une certaine manière, le dénominateur commun du travail théologique de Rahner, affirme les préfaciers à l'édition critique allemande, oui, et à juste titre, dans le respect indéfectible, c'est moi qui ajoute ceci, dans le respect indéfectible d'un critère peu mis en valeur chez les interprètes de Rahner, un critère pneumatologique, que Karl Rahner relie à une théologie de la tradition. Et il dit, à propos de la théologie de la tradition et de la tradition, oui, la tradition, mais à une condition, saisir, c'est merveilleux, saisir l'opération révélatrice de l'Esprit-Saint dans l'Église. On ne peut pas mieux dire. Il a l'art des formules les plus belles qui soient. Il faut, à mon avis aussi, réapprendre à goûter à la langue de Karl Rahner, qui est une très très belle langue. Très belle langue. Saisir l'opération révélatrice de l'Esprit-Saint dans l'Église, puis élaborer, construire, concevoir la théologie fondamentale et l'analysis fidei à l'aide du principe ignatien de l'élection. C'est l'une des facettes les plus originales et les plus fécondes de ce riche volume. Je termine par une citation, je veux laisser la parole à Karl Rahner lui-même. Et j'en aurai fini. Dans une théologie fondamentale authentique, il faudrait donc développer la théologie ignatienne de l'élection, et cela comme présupposition de l'ouverture à une décision absolue de foi. Une réflexion de la théologie fondamentale qui ne peut arriver à la complétude, il en est conscient, devrait faire place, au moins de manière formelle, à une telle ouverture. Il n'y a donc pas d'hubris chez Karl Rahner. Merci.
Un grand merci, Vincent, pour cette présentation du volume, qui est effectivement un volume d'une très, très grande complexité, de richesse et d'intérêt pour nous aujourd'hui. Je retiens un peu ta formule, peut-être Balthazar savait-il un peu trop de choses, de la relation entre Dieu et les hommes. Il y a quelque chose d'une docte ignorance chez Karl Rahner, je trouve, et donc qui se relie en même temps, comme tu l'as bien montré, à la scientificité de son œuvre. Voilà. Alors je vais introduire peut-être un autre point de vue dans quelques instants. Mon rôle, c'est maintenant, pour terminer, avant de vous laisser la parole aussi, de vous présenter ces deux numéros des recherches de sciences religieuses, c'est-à-dire un numéro de préparatoire au colloque qui a eu lieu finalement, malgré le confinement, en janvier 2021, donc au début de cette année, et le numéro préparatoire et les actes de ce colloque. Ce qui me donne aussi l'occasion, je dirais, de dire que je voudrais remercier, je dirais, mon successeur, parce que depuis le mois de septembre, c'est Patrick Goujon de cette maison qui a pris ma succession aux recherches de sciences religieuses. Je présente quand même ces deux numéros. Et je voudrais surtout, il me l'a demandé, excuser le père Michel Fédoux, qui est le délégué du provincial dans cette édition complète. Il n'a pas le don de la bilocation parce que il reçoit ce soir au Touquet un prix pour son très bel ouvrage de l'histoire de la christologie. Et donc, il est en esprit avec nous ce soir et évidemment, il est un des acteurs importants aussi de cette édition critique. Alors, je voudrais développer pour finir trois points. D'abord, je voudrais dire bref mot sur le titre des deux numéros, qui peut paraître un peu énigmatique. Karl Rahner, la puissance d'engendrement d'une pensée, ce sera mon premier point. On peut aborder un théologien, comme d'ailleurs bien d'autres penseurs, en s'interrogeant sur le contenu de sa pensée. Et j'y reviendrai. On peut aussi s'interroger sur sa manière de faire de la théologie. Ce qui a été fait ce soir à plusieurs reprises. Je cite un interview de Karl Rahner donné en 1980. « Je ne suis pas un scientifique, déclare-t-il, et ne veux pas non plus l'être, mais j'aimerais être un chrétien qui prend le christianisme au sérieux, qui vit sans appréhension dans le temps d'aujourd'hui et qui dans cette position se laisse donner tel ou tel problème. » Un troisième et un vingtième, et qui réfléchit. Si alors on veut appeler cela théologie, c'est bien. Et si c'était précisément cette manière de penser, l'aujourd'hui, dont nous aurions besoin pour traverser la crise actuelle. C'est en fait l'actualité de son œuvre et sa forte puissance d'inspiration qui a donné à l'équipe de préparation du récent colloque sur Rahner de se demander d'où vient cet art rahnérien de faire de la théologie qui peut nous inspirer aujourd'hui et demain.
On connaît surtout les envolées spéculatifs de sa réinterprétation transcendantale de saint Thomas, dans sa thèse « L'esprit dans le monde » et dans ses conférences à Salzbourg, « L'auditeur de la parole » et dans son traité fondamental de la foi. On ignore souvent, ça a été dit à plusieurs reprises ce soir, ses innombrables réflexions sur des problèmes éminemment concrets. Rainer a écrit sur la poésie, s'est intéressé aux écrivains et à l'avenir du livre religieux. Autant de détente dans nos vies, à la maladie et au moment de la mort. Très tôt, il est intervenu sur la présence des femmes dans l'Église, sur leur éventuel ministère. Il a parlé des enfants, du travail social, de la fonction critique du peuple de Dieu au sein de la société, des communautés de base et de la théologie de la Révolution, sans oublier la position des chrétiens par rapport à l'arme atomique, à la manipulation génétique, à la visée de la paix et à l'avenir de l'Europe, pour ne nommer que ces quelques thématiques abordées par lui parmi bien d'autres. Pour comprendre le lien intime de ces deux versants de son art de penser, il fallait initier nos lecteurs à l'ensemble de son travail, ce qui est l'objectif du premier numéro des recherches de sciences religieuses, numéro préparatoire au colloque. Quelques grands spécialistes de son œuvre se sont attelés à cette tâche. Je cite Klaus Fechtel de l'Université St. Georgen à Francfort sur les sources et les lieux théologiques de l'œuvre. Albert Raffel de Fribourg sur la réception mondiale de l'œuvre et Roman Siebenrock sur un aspect décisif de la manière ignatienne de faire de la théologie. Je vous donne le titre de son article « Obéissance ecclésiale comme engagement et protestation, la théologie de Karl Rahner comme théologie attentive aux signes du temps présent ». Les deux derniers articles du numéro, celui de mon voisin, Vincent, et le mien, tentent de s'approcher de la genèse de cette œuvre et de sa force d'inspiration. Je ne nomme pour le moment qu'un aspect qui me semble être la clé de l'articulation des deux versants spéculatifs et historiques ou éminemment concrets de cette œuvre. Dès 1930, dans sa reprise créatrice du petit ouvrage de Marcel Villers sur la spiritualité des premiers siècles chrétiens, intitulé « Ascèse et mystique à l'époque des Pères », on trouve le concept décisif de la mystagogie. Après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout après le Concile Vatican II, cette terminologie prendra de plus en plus d'importance. Dans une de ses retraites données à de futurs prêtres, on est en 1961, le théologien jésuite insiste sur le déplacement qui s'impose aujourd'hui à ce ministère, exigeant du prêtre, je le cite, que davantage qu'autrefois, il soit mystagogue d'une spiritualité personnelle. Et dans une conférence publiée immédiatement après le Concile, donc en 1966, on trouve cette formule surprenante « Nous avons besoin d'une mystagogie qui nous initie à l'expérience religieuse dont beaucoup pensent qu'ils ne peuvent la découvrir en eux. » Une mystagogie dont il faut transmettre, une mystagogie donc, qu'il faut transmettre de telle façon que chacun puisse devenir son propre mystagogue. Une mystagogie qu'il faut transmettre de telle manière que chacun puisse devenir son propre mystagogue. Je pense que ce que Rahner affirme ici de la mystagogie peut être affirmé de toute sa théologie, à savoir qu'elle a pour but d'engendrer des chrétiens qui pensent leur foi ou leur accès à celle-ci. Tout au long de l'œuvre, qui a connu au moins trois, sinon quatre phases ou étapes, cette mystagogie s'avère être la clé permettant d'unifier ces deux versants spéculatif et historique, évoqués à l'instant. Il y a sans cesse comme deux mouvements dans cette pensée mystagogique. Le mouvement qu'on peut appeler réductio in mysterium, à savoir la provenance de toute notre réalité historique de l'unique mystère trinitaire de Dieu comme grâce, et le mouvement de retour du sein même de la concrétude la plus singulière de notre vie quotidienne et collective ou historique vers le mystère insondable de Dieu. Cet art de faire de la théologie dans un esprit mystagogique étant déployé dans le numéro préparatoire, le colloque lui-même s'est tourné vers le contenu de la pensée ranérienne et son unité interne. C'est le deuxième point que je voudrais brièvement aborder. Les manières de traiter ce contenu sont certes diverses, mais convergent toutes dans la conviction que l'expérience de la grâce au sein de l'inconditionnelle liberté humaine est absolument centrale chez Ranner. Appelé donc Karl Ranner, nouveau docteur de la grâce, rappelle évidemment la figure de saint Augustin, auquel on a donné fréquemment le titre de docteur de la grâce. C'est Karl Lehmann, déjà mentionné, qui le premier en 1970, dans l'ouvrage collectif « Bilan de la théologie au XXe siècle », avait déjà discerné l'expérience de la grâce comme le point de départ théologique radical de Karl Ranner. Je le cite. Une étude plus approfondie des œuvres de Karl Ranner permettra certainement de découvrir bien des expériences fondamentales. Il me semble cependant que c'est l'expérience de la grâce qui occupe la position centrale. Pour Karl Ranner, elle est, d'une manière absolue, la réalité proprement dite, la réalité fondamentale du christianisme. Les actes du colloque qui se trouvent dans le deuxième numéro des recherches de sciences religieuses consacrées à Karl Ranner retracent d'abord son itinéraire théologique avec un article du premier biographe des deux frères Ranner, Hugo et Karl, c'est Karl-Heinz Neufeld, et ce numéro propose ensuite des sondages sur la réception de son œuvre dans le monde francophone et dans le monde anglo-saxon et italophone aussi, pour sonder un peu cette fécondité de son œuvre. Et la suite du numéro décline la thématique centrale de la grâce autour de quatre têtes de chapitre. Faire l'expérience de la grâce. La grâce dans l'histoire du monde, incarnation, Église, sacrement. Et finalement, je dirais après avoir proposé ces deux entrées proprement théologiques, un troisième parcours qui porte sur le Dieu de la grâce, où le rapport de Ranner à la philosophie et au fameux transcendantal entre en jeu, avec plusieurs textes, et notamment un texte de David Sandres qui pose la question « Comment relire aujourd'hui de façon fructueuse les grands textes de Ranner ?» Et il fallait, pour terminer cette traversée de la théologie de la grâce, parler du grand souci œcuménique de Ranner, ce que fait Christophe Chalamet dans la dernière partie du dossier, partie intitulée « L'œcuménicité de la grâce ». Je m'excuse quelque peu de la sécheresse de cette énumération. Elle vous donnera au moins une idée de l'étendue et de la cohérence de la pensée ranérienne. Et je pense que ce deuxième numéro des RSR, en particulier les quatre temps ou parcours que je viens de résumer, représente une excellente initiation à l'œuvre de Ranner, avec un grand respect de l'équilibre remarquable de sa pensée et de ses nuances. Et si vous voulez trouver ces deux numéros, éventuellement les acheter, c'est à l'accueil ce soir qu'ils sont disponibles. Dans un dernier point, je voudrais brièvement revenir à la question qui oriente notre soirée, Karl Ranner
un théologien pour aujourd'hui et demain. Rahner fait partie de ceux qu'on peut appeler les grands classiques du XXe siècle, avec Congar et Skillebecks, Lubach, Kung, Balthazar et d'autres encore. Ils entourent en quelque sorte le Concile Vatican II et orientent ses ouvertures. Une utilisation non critique de la notion aux frontières inévitablement floues de théologiens classiques du XXe siècle, catholiques et autres, risque cependant de minimiser les conflits et clivages importants apparus dans le catholicisme à la fin du Concile. Sans pouvoir les analyser ici, on peut au moins retenir qu'ils n'ont pas seulement marqué et très profondément le processus de réception de l'événement et du corpus conciliaire lui-même, mais aussi l'histoire des théologies conciliaires et post-conciliaires, et leur présence ou non dans l'enseignement théologique, et surtout peut-être dans les stratégies pastorales de l'Église catholique. Or, aujourd'hui, la question de la réception des grands classiques du XXe siècle se pose dans un contexte nouveau. Il suffit de faire mention de la transition écologique, du nouvel âge géologique dans lequel nous sommes apparemment entrés, fréquemment appelé Anthropocène, et de la pandémie mondiale, ou encore de ce qu'on appelle la crise systémique de l'Église catholique, pour faire comprendre que comme nos sociétés et nos églises, la théologie et ses processus de réception sont eux aussi soumis à des tests de résistance. Si l'on applique ce test à la pensée de Rahner, on est renvoyé avant tout à sa manière de faire de la théologie. Et je voudrais très brièvement illustrer la pertinence de ce modus, si je puis dire, pour aujourd'hui et demain, en me référant à un extrait de son ouvrage intitulé « Éléments dynamiques dans l'Église », un texte qui date de 1958. Voici ce qu'il écrit en traitant du courage en présence de nouveaux charismes. Je le cite. « Il faut apprendre à reconnaître les charismes dès leur apparition. » Que des tombeaux soient érigés aux prophètes par les enfants de leurs meurtriers. Jésus l'avait déjà observé, sans pour autant approuver le sort qu'ils avaient subi. Que l'on glorifie et canonise les prophètes après leur mort, alors que leur charisme est officiellement reconnu, voilà ce qui est bon et utile. Mais ce qui est presque plus important, c'est de percevoir ces charismes de l'esprit dès leur première irruption, pour qu'ils soient promus au lieu d'être étouffés par l'incompréhension et la paresse d'esprit, quand ce n'est pas par la méchanceté et la haine de leur milieu, même ecclésiastique, ajoute-t-il. Quant à l'élément charismatique, il est quelque chose d'essentiellement nouveau et il surprend toujours. Sans doute est-il en continuité intime et secrète avec la tradition dans l'Église, et il demeure inséré dans l'esprit et dans le cadre institutionnel de l'Église. Il n'en reste pas moins quelque chose de neuf et de non déductible. Que tout cela puisse coexister dans l'ensemble permanent de l'Église, on ne le voit pas au premier coup d'œil. » Fin de citation. Rahner lui-même avait une sensibilité très aiguisée, j'ose dire prophétique, par rapport à des commencements et des nouveautés émergentes, comme il dit, émergentes de l'instinct spirituel de l'Église. C'est le terme qu'il forge. On peut retenir au moins quatre perceptions décisives. Étonnement tôt, en 1954, qu'il aperçut la sortie, il aperçut la sortie de l'Église de la chrétienté, voyant advenir une Église en diaspora. 4 jours
après la clôture du concile, le 12 décembre 1965 à Munich, il a eu la modestie et le courage de montrer que Vatican II n'est que le commencement du commencement, d'une mutation sans précédent au sein de la tradition chrétienne. Je rappelle ensuite son plaidoyer pour l'unification des églises, montrant A plus P dans une série de thèses publiées avec Heinrich Fries en 1972, que, comme il dit dès maintenant, l'unification des églises est une possibilité réelle, si elles le veulent réellement, selon le désir de Jésus. Et enfin, il a esquissé en 1979, en plein synode des diocèses d'Allemagne, un changement de structure de l'Église, Strukturwandel der Kirche, en abordant parmi bien d'autres questions épineuses, celle de l'ordination des femmes, etc. Je fais l'hypothèse que dans la crise actuelle que nous traversons, c'est précisément cette sensibilité aiguë pour ce qui est en train de naître, qui peut nous inspirer dans notre propre travail théologique. Aujourd'hui et demain, il ne peut en effet s'agir de penser comme Rainer, mais d'apprendre de lui à penser par nous-mêmes la foi au sein de notre propre situation historique et ecclésiale. Je vous remercie. Alors, il nous reste une petite demi-heure jusqu'à 21h30. Donc, si vous avez maintenant, je dirais, des questions, je ne sais pas si on a un micro qui pourrait circuler. Voilà. Et des remarques à faire, etc. Vous pouvez vous adresser à chacun de nous quatre, évidemment. Voilà, Étienne, il va nous donner, je pense, un micro. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Oui, merci.
Merci infiniment pour ces interventions et ces éclairages tout à fait réjouissants. En entendant tout à l'heure Vincent Holzer parler de la question de l'historicité dans toute sa portée théologique chez Rainer, je me suis demandé si on n'avait pas là une clé pour montrer qu'on avait déjà les moyens de penser, en tout cas, le dépassement de la crise moderniste qui, politiquement, ecclésialement, culturellement, n'est pas tout à fait résolue. Mais en même temps, le rapport entre histoire et théologie, je pense au débat entre Loisy et Blondel sur la question, on voit que là, il trouve finalement une réunification, une résolution qui nous reste peut-être maintenant encore à déployer dans toute sa potentialité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin,
peut-être collecter quelques questions, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Henri.
J'ai été surpris, heureusement surpris, d'entendre Jean-Claude Ulrich, hein, cardinal, mon frère cardinal. Citer un texte de Karl Rahner, et ce qui correspond à ce que j'ai entendu dans ta saisie des quatre moments où Rahner a perçu un charisme qui perçait, avec ce qui commence et votre fonction comme relateur du synode sur la synodalité, m'ouvre un horizon très encourageant alors que j'avais plutôt l'impression qu'on piétinait devant l'obstacle. Alors, peut-être avez-vous quelque chose à dire à ce sujet-là ?
On peut peut-être déjà commencer un peu à réagir, d'abord par rapport à la première question. Donc, il y a la position de Ranner par rapport au modernisme. Est-ce que, Vincent, tu as envie de dire ? Dans un des derniers articles, dans le deuxième numéro de David Sandres, on trouve cette thèse aussi. C'est-à-dire, au fond, je dirais, la théologie du XXe siècle dans le catholicisme restant évidemment tributaire de la crise qui s'est ouverte au moment du modernisme, grosso modo entre 1893 et 1913, voilà, à cette époque-là. C'est tout à fait vrai, je dirais. On trouve chez Ranner, à un moment donné, une réflexion sur la révélation et son rapport à l'histoire, effectivement, où il traite, je dirais, de ce problème en héritier, au fond, de cette crise ouverte à cette époque. Mais il me semble qu'à partir de 1964, on entre chez Ranner et dans sa perception, je dirais, du monde contemporain, dans une toute nouvelle phase. Joseph Doré l'a nommé tout à l'heure, je dirais, son affrontement, je dirais, aux sciences, notamment aux sciences naturelles, je dirais à l'époque, aux sciences dures, comme on pourrait dire aussi, au concept de d'évolution, etc. Et apparaît là quelque chose de nouveau qui n'apparaissait pas quand même pendant la crise moderniste, c'est-à-dire au fond ce qu'on pourrait appeler une non-transparence du réel. Le réel voilé, dirait-on aujourd'hui, ça apparaît déjà à partir de 1964, et donc le pluralisme radical des visions du monde, culturellement aussi, et donc l'extraordinaire difficulté de l'Église de maintenir un langage unifié dans une diversité de cultures toujours plus grande. Et c'est à ce moment-là qu'il introduit, au fond, je dirais, ce qu'il appelle les formules brèves de la foi, ce qui est, au fond, une vision géniale dans l'histoire de la théologie, parce qu'on revient, au fond, à l'idée des confessions baptismales du début, voilà. Donc, des formules brèves et, au fond, je dirais, une sorte de méta-réflexion théologique qui laisse alors la place, je dirais, à des évolutions culturelles extrêmement différenciées. Et donc ça, c'est la grande intuition de 1964-65 à la fin du Concile et qui le conduit vers la Commission théologique internationale dont il est un des premiers membres. Et à un moment donné, il la quitte parce qu'il trouve que cette question du pluralisme radical n'est pas vraiment prise au sérieux. Voilà. Et donc, je dirais là, à mon avis, il y a un tournant qui peut plus s'expliciter à partir des grands débats, je dirais, de la crise moderniste, Blondel, Loisy, etc.
J'ajouterai juste un point. Il me semble, je vais être très, 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 très bref et un peu elliptique peut-être, mais il me semble que le concept ranérien d'historicité, c'est l'antidote de l'historicisme.
Oui. C'est voilà. Tout à fait ça.
Et donc là, on sort des dilemmes auxquels Blondel a été rudement confronté, c'est-à-dire la question du rapport entre le fait et le sens. Et Blondel ne parvenait pas à s'extraire, évidemment, de cette difficulté. Et on sent que Karl Ranner est déjà ailleurs. Il est déjà ailleurs. Alors j'ai repéré un texte tout à fait, je le cite dans la préface que j'ai écrite, un texte tout à fait fameux, où Karl Ranner invite... avec beaucoup de véhémence, les exégètes eux-mêmes à travailler avec les principes de la théologie fondamentale. Ce qui est une recommandation expresse tout à fait inattendue. Mais c'est bien Karl Ranner qui le fait. Il dit aux exégètes qu'il estime beaucoup. Monseigneur Doré faisait allusion à ce magnifique ouvrage co-signé avec Wilhelm Thusing, mais c'est exactement cela. Karl Ranner ne lâche pas le morceau, en quelque sorte. Il dit « Attendez, moi je philosophe en théologie et j'ai des choses à dire sur la question de l'historicité et sur la question du rapport à l'histoire. » Et là, il est vrai que Karl Ranner a ouvert des voies absolument remarquables, je crois.
Merci Vincent. Est-ce que Jean-Claude Olrich, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos de la question de Henri Coudray?
C'est très difficile de répondre à cette question parce que le synode est en train de se faire. Et mon rôle est d'écouter. D'écouter honnêtement et attentivement pour, avec les commissions du secrétariat du synode, faire les textes. Tout d'abord des textes martyrs qui sont déchirés, pour ensuite, après, en écoutant toujours plus, de faire le texte sur lequel le synode des évêques votera. Et je suis content de ne pas devoir le faire seul, parce que c'est impossible de le faire seul, mais d'avoir justement, il y a dans le secrétariat du synode, 4 commissions. Une commission théologique, dont vous avez un éminent membre ici à côté, une commission méthodologique, parce que comment lire tout ce que le peuple de Dieu va dire. Une commission de spiritualité, parce qu'il s'agit d'un événement spirituel, un synode, hein, c'est pas un parlement. Et une commission de communication. Donc, avec ces commissions, nous ferons le texte. Et c'est très important que le premier moment diocésain ait été prolongé jusqu'en mi-août. Parce que c'est la phase essentielle du synode. Tout d'abord, comme je suis évêque diocésain, je sais bien comment on réagit. On a beaucoup de choses à faire. Il y a tout un programme du diocèse. Et, oh, un synode, vous devez encore faire un synode en plus. Alors, la première réaction des évêques, c'est de mettre ça à côté et de regarder comment est-ce qu'on peut être inséré cet élément romain dans le reste de ce qu'on avait déjà préparé. Vous, le peuple de Dieu, vous avez le droit de demander à vos évêques de faire le synode bien. C'est votre droit, comme baptisé. Le successeur de Pierre veut connaître votre opinion. Il veut, et ce n'est pas seulement le successeur de Pierre, parce qu'il y a tout un bureau du secrétariat avec des représentants élus du collège épiscopal. Ils veulent connaître votre opinion, vos questions. Le pape croit, et je peux complètement m'inclure dans cela, que vous avez reçu le Saint-Esprit. Si je ne le crois pas, je devrais terminer mon métier d'évêque pour les confirmations au moins. Et que ce Saint-Esprit travaille en vous, dans la vie quotidienne. Donc, vous avez le droit de demander à vos évêques de faire bien le synode. Et je pense que c'est ce moment diocésain qui est le plus important. Il y aura le moment des conférences épiscopales, et ensuite, ce qui sera encore plus important, les assemblées ecclésiastiques continentales. Je ne dis pas assemblée des évêques, non. Assemblée ecclésiastique, donc d'évêques et de laïcs, du peuple de Dieu, et cela est nécessaire pour l'unité de l'Église. Parce qu'il s'agit à toute l'Église de faire une marche ensemble. Alors toute l'Église veut dire qu'il y a une gauche, il y a une droite. C'est normal quand on marche ensemble, non ? Parce que tout le monde ne peut pas marcher au milieu. C'est légitime. Mais il faut marcher ensemble. Et ensuite, on va voir ce qui va en ressortir. Je ne le sais pas. Il y aura certainement des opinions des fidèles qui n'ont rien à faire avec les demandes posées par le secrétariat du synode. C'est normal. Parce que si on demande au peuple de Dieu de s'exprimer, eh ben, il y a comme un barrage qui se rompt. Il y a toutes sortes d'opinions et de demandes qui seront faites. On ne pourra probablement pas tout inclure dans le synode. Mais on a peut-être les programmes des synodes prochains. Ce qu'il faut maintenant, c'est une nouvelle manière d'être Église ensemble qui correspond à Vatican II. C'est clair que l'Église a besoin de réformes, toutes sortes de réformes. Mais aujourd'hui, regardez le monde autour de vous. Des réformes de haut en bas ne réussissent pas. Aucun homme, aucune femme politique n'a l'autorité de faire une réforme de haut en bas. Ça ne fonctionne plus dans notre monde aujourd'hui. Regardez les quelques décisions que le pape François a prises. Alors, c'est une chose, c'est la droite qui dit non. L'hérétique. S'il dit autre chose, c'est la gauche qui dit « Mais nous avions pensé que ce fut un pape libéral. » Donc, nous voyons l'impossibilité de faire des réformes de cette manière. Donc, l'unique manière, c'est de croire en la grâce de Dieu, de croire en l'action de l'Esprit-Saint, d'avoir confiance dans les autres qui pensent et ont des sentiments différents de moi, de les écouter avec empathie pour avancer ensemble. Et c'est là le synode. Un des théologiens du synode a dit « C'est l'événement le plus important depuis Vatican II. » Et je suis du même avis. Priez pour moi, hein, parce que c'est un grand travail.
Je me permets juste à ajouter un petit point qui m'a fait énormément plaisir. On a eu communication, je dirais les membres des commissions, je dirais d'un texte fait à la fois par le cardinal Mario Grech, qui est donc le secrétaire, et le cardinal qui est responsable du secrétariat du Conseil pontifical pour l'unité. Parce que je pense personnellement, nous comme catholiques romains, on a beaucoup d'intérêt dans ce processus de regarder un peu à côté ce qu'est l'expérience synodale à la fois, je dirais, dans l'Église orthodoxe et aussi dans les Églises issues de la Réforme. Et donc ça m'a fait beaucoup de plaisir que finalement ce point-là est entré aussi dans l'agenda, je dirais, du synode. Parce qu'on ne peut pas séparer, c'était déjà l'idée de Ranner, dans les grands textes sur l'unité des chrétiens, qu'il a beaucoup travaillé, qu'on peut plus séparer, je dirais, sur les procédures et les questions d'avancée, les méthodes, etc., les expériences acquises par les uns et les expériences acquises par les autres.
Je dois dire que l'intérêt des autres églises est très grand. Donc à Luxembourg, nous avons demandé l'avis aux autres églises chrétiennes de s'exprimer aussi. Parce que quand on parle de baptiser, c'est plus grand que l'Église catholique. Puisque nous reconnaissons le baptême, alors il faut prendre cela au sérieux.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour revenir un peu à Ranner, voilà. Étienne, oui, il y en a une là-haut et ensuite vous.
Ma question concerne l'actualité de ce point de la théologie de Karl Ranner, les chrétiens anonymes. Alors, vous y avez fait allusion tout à l'heure et vous avez estimé que ça peut servir aujourd'hui dans la rencontre entre les religions ou dans le clivage entre les religions. Alors, je voulais savoir comment le faire aujourd'hui. Voilà. Et dans le même sens, je me demande si ce point n'intéresse pas la méthodologie théologique de Karl Rahner. Est-ce que dont le point central est l'ouverture? Est-ce que ça ne fait pas partie? C'est un fait de chrétien anonyme. Voilà. Merci.
Et peut-être tout de suite, la deuxième question ici devant, Étienne. Ah, il y avait quelqu'un là. Bon, d'accord, oui, c'est très bien. Oui, très bien.
Je voudrais savoir si Karl Rahner a eu une position ou une attitude par rapport à des synodes à Medellín et Puebla. Est-ce qu'il y a un article ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il en a pensé? Merci.
Et ici devant?
Bonsoir. Je suis, disons, un passant. Et vous avez évoqué le mot presque prophétie. Moi, je crois que les prophéties existent, même de nos jours. Et je voudrais que vous dites un peu plus sur ce point en ce qui concerne les prophéties ou ce qui semble à la prophétie dans l'œuvre de Karl Rahner que j'ai découvert.
Peut-être d'abord juste un petit mot. Joseph, tu voulais réagir, reprendre une remarque de Jean-Claude Ulrich. Et ensuite, on va reprendre les trois questions. Voilà.
Oui, volontiers. J'ai le vif désir de vous faire part de mon sentiment. À la suite des interventions du cardinal Ulrich, je voulais exprimer ma reconnaissance et dire que cette reconnaissance se motive de plusieurs manières. D'abord parce qu'elle fait bien apparaître la qualité, la puissance, la fécondité de la réflexion du théologien Karl Rahner et de la théologie en général quand, éventuellement, selon d'autres modalités, elle s'inspire de l'esprit qui était celui de Karl Rahner. Et comme nous sommes réunis en son nom, je suis heureux que, disons, ce que nous avons dit au-delà même du discours de Karl Rahner, parlant en particulier de la situation présente de l'Église, nous manifeste sa fécondité aujourd'hui et combien il importe d'acheter les livres de Rahner, c'est un clin d'œil, de les lire,
merci,
de les travailler. Deuxième chose qui m'a réjoui dans les interventions du cardinal, c'est aussi qu'elles font percevoir à quel point non seulement la pensée de Rahner était féconde et peut toujours nous éclairer, mais à quel point l'engagement de l'actuel pontife romain est précieux, riche, fort, clair. Et troisièmement, ben, ça me révèle l'importance et l'esprit de l'engagement de celui qui occupe pour l'ensemble du synode la responsabilité que nous a précisée tout à l'heure. Je trouve là la source d'une grande espérance. Je trouve en effet qu'il ne faut pas passer à côté, mais ça c'est une question qui nous est adressée à tous, à côté de l'espérance que représente l'initiative synodale. Il y a au moins 6 ans que l'actuel pontife a mis en valeur la notion de synodalité, disant que ce serait la tâche de l'Église, ce serait son chemin dans les années qui viennent. Et nous avons la chance d'avoir ici ce soir quelqu'un qui a une responsabilité de fond dans cette initiative de l'Église, inspirée par Karl Rahner, portée par l'actuel pontife. Je repartirai de cette rencontre aussi convaincu davantage de l'importance de Rahner, plein d'espérance pour ce qui attend notre Église, confiant dans les engagements du pape François. Et je veux dire à Jean-Claude Ulrich qu'il peut compter
non seulement sur mon soutien, mais sur ma prière. Et je le prie d'accepter l'estime que j'ai, non pas seulement pour l'engagement pastoral qu'il tient, mais s'il peut me permettre de le dire, pour la justesse théologique qui soutient son engagement pastoral.
Merci, Joseph. Alors, les trois questions qui ont été posées. Vincent, pour les chrétiens anonymes, tu veux dire un peu quelque chose?
Mein Gott.
voilà.
Je ne suis pas un spécialiste de cette question et je n'ose pas dire, parce que je pense que ce serait une erreur, que c'est une question marginale dans l'œuvre de Karl Rahner. Je ne le crois pas.
Non, certainement.
Elle n'est pas du tout marginale. Je pense qu'il faut absolument la resituer à l'intérieur de sa théologie de la grâce.
Oui, bien sûr.
Et précisément, ne pas la traiter comme un en soi, c'est-à-dire comme une réalité isolée ou comme un appendice. Je pense qu'au contraire, elle est profondément cohérente avec sa théologie de la grâce et donc de l'initiative première de Dieu. Hein, je pense que moi, je lis les chrétiens anonymes à partir d'une certaine forme de théocentrisme. Et je pense que c'est la lecture qui mérite d'être faite.
Juste une remarque peut-être aux deux. Je suis impressionné par des écrits, je dirais des années 50, qu'on Rahner à la fois dans sa propre famille et chez beaucoup d'amis. Il a découvert, je dirais, tout d'un coup, il a fait un grand texte là-dessus, les incroyants de ma propre famille. Et donc c'était quand même une question, je veux dire, qu'on entend encore beaucoup, beaucoup aujourd'hui, posée par des parents qui comprennent pas très, très, très bien comment, je dirais, malgré leurs efforts d'éducation et de transmission, les enfants prennent d'autres itinéraires. Et donc, derrière la question des chrétiens anonymes, il y a cette expérience pastorale qu'il a faite. Alors je dis, c'est une première remarque. Et ensuite, une deuxième remarque. On peut parler de théocentrisme. Je dirais, Rahner est peut-être un des premiers qui distingue à nouveau, on le trouvera chez d'autres théologiens, chez un Séquery par exemple, entre la grâce du Christ et la grâce baptismale. Et donc au fond, je dirais, cette affirmation que le Concile emprunte à Saint Augustin, on peut en être de corps de l'Église, sans en être de cœur. Faute de charité. Ce qui veut dire aussi, on peut en être du cœur sans en être du corps. Et c'est absolument décisif, cette distinction. Et il ajoute, n'est-ce pas, le Concile, je dirais, c'est dans le numéro, si je ne me trompe, c'est dans le numéro 14 de Lumen Gentium. Et il ajoute, le Concile, à ce moment-là, que les chrétiens font bien garde que leur état d'être chrétien est un état particulier de la grâce. Le Concile ne dit pas supérieur, mais particulier de la grâce, qui implique une responsabilité vis-à-vis de la société, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment l'idée de Rahner, je dirais qu'il, à un moment donné, il a quand même renoncé au terme chrétien anonyme. Il a dit, ça peut être mal compris, mais c'est vraiment une question, je dirais, de la grâce universellement répandue. On peut penser à Matthieu 25 et d'autres textes du Nouveau Testament qu'il prend radicalement au sérieux.
Juste une petite information dans la maison qui fut celle de Bernard Sesbouet. Bernard Sesbouet a fait, dans Études, je crois, qui n'est pas une revue concurrente.
Oui, non, au contraire.
Un très bel article.
Oui, tout à fait.
J'en ai pas la référence immédiate, un très bel article qui met l'accent sur le point suivant. Attention, Rahner ne parle pas de christianisme anonyme.
Non, jamais.
Il parle de chrétiens anonymes.
Ah oui, tout à fait.
Et ça fait aussi une part de la différence.
Oui. Et donc la question à propos de la théologie de la religion, des religions, c'est là, je dirais, la clé pour toute sa théologie des religions. Voilà. Alors, Medline et Puebla, la seule chose que je pourrais dire d'une manière précise, que Rahner était dans la revue Concilium à l'époque, et qu'il a donc discuté énormément avec les théologiens qui étaient présents à Puebla. Mais je ne pourrais pas maintenant, mais il y a le volume 32 dans la version, dans l'édition allemande, où on pourrait trouver, je dirais, des références précises. Je ne peux pas vous répondre vraiment de manière assurée qu'il a fait un papier là-dessus. Alors, par rapport au prophétisme, quoi dire ? Peut-être dernière question, qui est une bonne question. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut, comment réagir par rapport à ça ? Oui, oui, bien sûr.
Je pense qu'on a besoin de prophètes et qu'on a besoin aussi de théologie prophétique. Alors pour moi, un prophète, c'est quelqu'un qui est un homme de Dieu, tout d'abord, qui a le sens de Dieu, qui est à l'écoute de Dieu. Et en même temps, il a le sens du réel. Il est entièrement dans le présent. Il saisit le travail du Saint-Esprit et le travail contre le Saint-Esprit dans la situation présente, et ça lui permet d'avoir une parole qui se lance dans l'avenir, dans le futur. Mais on a besoin de théologie prophétique. Et on a besoin de prophètes dans l'Église.
On est peut-être dans une situation maintenant par rapport à Karl Rahner, ou je dirais ceux que j'ai appelés les classiques du XXe siècle, on est évidemment, je dirais, à distance maintenant. Et donc, il y a un test qui est en train de se faire de ces théologies. Voilà, j'ai dit, ça c'est normal, le grain de blé tombe en terre, etc. Il porte du fruit. On est dans ce test. Et donc là, peut-être, je dirais, par rapport à la théologie de Rahner, ce qu'on a essayé de montrer ce soir, c'est-à-dire, ce test est possible. Voilà. Ce test est vraiment possible. Donc on peut reconnaître après coup, je dirais, quelqu'un comme prophète. Mais ce qui est le problème, maintenant, voilà. C'est le maintenant, voilà. Et donc là, on est livré, je dirais, à la situation que Rahner évoque lui-même, je dirais, voilà. Qu'est-ce qui est en train d'émerger, finalement ? Peut-être la démarche synodale est de cet ordre.
Mais moi, je pense que ce n'est pas d'abord la théologie qui doit changer.
Oui.
C'est l'Église.
Oui.
Et en elle, la théologie doit s'éduquer à ce qu'est sa tâche, à ce qu'est sa responsabilité propre. Parce que si une survalorisation de l'autorité dans l'Église a des effets délétères sur l'ensemble de l'Église, une certaine survalorisation de la réflexion théologique a les mêmes effets.
Oui, certainement.
D'autant que, je ne sais pas, mais moi je trouve que tout d'un coup, on aurait un nombre de théologiens assez important pour prendre la parole en domaine de la théologie. Il y a des choses à savoir, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à décider. Et ça suppose un investissement d'ordre proprement sérieux, scientifique, critique, théologique. Et plus on a investi de cette manière, dans cette recherche de la foi qu'est la théologie, moins on est enclin à confisquer une sorte de judicature, appelée théologique quelquefois trop rapidement, dans l'ordre de ce qui fera du bien au monde, à la société, de ce qui rendra les gens plus heureux, de ce qui les rendra plus fidèles à l'appel évangélique et de ce qui les acheminera vers le salut que Dieu nous propose.
Voilà. Merci, Joseph, pour cette dernière parole sur la théologie. Il me reste à remercier Joseph Doré, Jean-Claude Ulrich, Vincent Holzer, et évidemment vous-même aussi, pour vos questions, pour votre présence et votre intérêt. Voilà. Et achetez les deux numéros des RSR.